Mesdames et messieurs les représentants des entreprises, nos partenaires, les représentants des chambres consulaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les inspecteurs, madame l'ambassadrice du BAC Pro, monsieur le recteur honoraire, monsieur le recteur, proviseur du lycée Gallieni, je suis extrêmement honorée de vous accueillir dans cet atelier des BAC Pro maintenance de véhicules de transport routier qui crée tout de suite une ambiance, un décor. Ça situe bien effectivement les enjeux du BAC professionnel, ce BAC qui a déjà 30 ans et dont nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire, et qui a des perspectives importantes qui vont donc être l'objet de ce colloque qu'animera donc monsieur Yves Costa. Donc merci à tous de votre présence et je vous le redis, combien je suis honorée que le lycée Gallieni soit le centre de cette manifestation académique d'anniversaire des 30 ans du bac professionnel. Monsieur le recteur.
J'avais fait la promesse de garder ses lunettes toute la journée, voyez, je ne m'en suis pas détaché comme le font certains quand ils font une visite. Allez, je vous donne ça, je les garde, voilà. Donc, je m'y suis engagé auprès du BAC Pro Optique, n'est-ce pas? Donc, c'est eux, ils ont les mêmes que moi. Monsieur le recteur, madame la proviseure, mesdames, messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, chers élèves, chers professeurs, je suis vraiment très heureux d'être ici à Gallieni. C'était un choix important pour moi, madame le proviseur, de fêter les 30 ans du bac pro dans un établissement, ici, à Fréjus, un bac professionnel et un établissement dirigé par une femme remarquable. Je le dis parce que vous faites la promotion non seulement du bac professionnel, mais aussi à travers vos magazines, l'importance des filles du lycée. Je l'ai ouvert, je l'ai lu, ce midi je me suis mis un petit peu à l'écart pour le lire très en détail. Et oui, être une fille en lycée professionnel, ce n'est pas si difficile, et c'est votre message, il est très important, c'est ce qui est marqué ici, dans un lycée où sur 567 élèves, on compte seulement 10 filles. C'est important aussi d'y penser pour en faire à la fois la promotion, car l'avenir de notre nation, n'est-ce pas, madame, c'est aussi l'avenir des filles présentes. Je tiens vraiment à remercier aussi tous les partenaires professionnels qui sont ici, toutes les entreprises qui accompagnent nos lycées professionnels. Sans vous, rien ne serait possible. Je parle sous le contrôle du recteur Bloch, qui avait vu il y a 1985 une mission confluée. Cette mission visait, cette mission école-entreprise, dont vous étiez le président, monsieur le recteur, visait à étudier les défauts de cohérence entre l'école et l'économie, à dresser sans complaisance les bilans des formations initiales, réfléchir au fonctionnement des instances consultatives et proposer des procédures pour renforcer les liens avec l'entreprise et améliorer le dispositif d'orientation des élèves. Bien évidemment, cela ne peut pas se faire sans le monde de l'entreprise aux côtés du monde de l'école, des mondes qui quelquefois se sont un tout petit peu ignorés, mais voilà, je pense que le bac professionnel, c'est avant tout le bac de la rencontre, de ce que devraient être d'ailleurs tous les bacs aujourd'hui. Parce que je n'imagine pas qu'il n'y ait pas un seul bac aujourd'hui qui ne soit pas un bac professionnel, au fond. Vous avez donné le ton de ce que doit être le bac de demain. On est en 1985, l'année 86, c'est la première année de mise en œuvre. C'est une drôle d'année, l'année 86. C'est l'année où la navette spatiale Challenger explose en plein vol. C'est l'année où l'Américain Greg LeMond gagne le Tour de France. C'est l'année où Maradona offre à l'Argentine la Coupe du Monde. C'est l'année du parfum de Suskin. C'est l'année du nom de la rose, mise en scène par Jean-Jacques Hano. Je pense que c'est important de vous rappeler quand même qu'on est dans un contexte singulier. C'est l'année de la naissance de la 5 à la télévision et TV6 également. C'est aussi l'année où 10 000 étudiants manifestent du fait de la mort de Malik Osikin. L'année donc importante et une année dont le seul et le principal événement de la rentrée en septembre sera l'ouverture du bac pro. Je crois que c'est tout à fait essentiel de le rappeler aujourd'hui. On vit toujours dans un environnement qui se fait sous contexte, le contexte éducatif, le contexte du monde dans lequel on est. Et imaginer un bac pro, ben c'est, vous en parlerez dans cette table ronde, et je tiens à remercier vraiment les intervenants à la fois des tables rondes de ce matin et ceux de cet après-midi. C'est important effectivement d'imaginer que c'est dans ce contexte qu'on imagine un monde scolaire adapté pour l'avenir. Je suis heureux de pouvoir dire ici que dans notre académie, tous les lycées qui sont ici présents et représentés par le proviseur ont eu des initiatives formidables. D'ailleurs, je tiens à remercier le lycée Camus qui nous a régalé ce midi à travers non seulement un service exceptionnel et des mets absolument délicieux. Et je me joins à vous tous, donc proviseurs, inspecteurs, professeurs, parents, élèves, entreprises, pour me réjouir, car toutes les activités de nos lycées témoignent de l'intensité et de la qualité du travail mené dans ces lycées professionnels. Vous êtes tous les artisans de la réussite au quotidien, non seulement de cette année anniversaire, mais aussi de la réussite du bac pro et de l'enseignement professionnel dans notre académie. Tous les recteurs que je rencontre dans toutes les académies me disent « Les initiatives pédagogiques innovantes, elles sont là. Tu vas voir, moi je fais recteur depuis quelques mois à peine, et tout le monde m'a dit cela, et vraiment, c'est quelque chose que je peux vérifier chaque jour. Tous ceux que j'ai pu visiter jusqu'à maintenant me montrent à quel point c'est un lieu de la réussite. 4900 élèves en 2007, 15 000 aujourd'hui dans l'Académie de Nice. Le bac pro se prépare par deux voies de formation multiples selon les modalités différentes. En formation initiale, pour les élèves qui fréquentent nos 28 lycées professionnels et les nombreuses sections d'enseignement professionnel, les apprentis en CFA, et les adultes qui se forment dans les GRETA, y compris en ayant recours à une autre modalité d'accès, la validation des acquis de l'expérience auquel nous devrions tous songer. Les élèves qui sortent également de nos formations, qui sont en expérience depuis quelques années, il faut pouvoir garder le contact avec eux et les ramener du côté de la validation des acquis d'expérience. Aujourd'hui, il faut vraiment imaginer que la société de demain ne se fera qu'avec une formation continue tout au long de la vie. Et c'est le sens de la formation tout au long de la vie, c'est de revenir, de se former, de s'améliorer et d'imaginer comment on peut redéfinir tout le long de notre vie une trajectoire qui doit être à chaque moment de notre vie passionnante. Il n'y a rien de pire, je parle sous le contrôle des chefs d'entreprise, que quelques années dans l'entreprise, dans le monde du travail et qu'on commence à se lasser de ce qu'on est en train de faire. La clé contre la lassitude, c'est forcément la formation parce que la formation, c'est l'imagination. Tous nos publics ont la chance de pouvoir suivre des formations et d'apprendre des métiers, alliant ainsi donc la théorie à la pratique, qui vont de la gestion du commerce, des soins à la personne à la stérilisation, j'ai une démonstration parfaite tout à l'heure de stérilisation, des services numériques à la maintenance automobile ou nautique, en passant par toutes les branches de l'industrie et du transport, comme ici même dans le lycée des métiers du transport et de la logistique. Je suis très impressionné par vos équipements. C'est assez extraordinaire de voir effectivement que c'est une formation coûteuse mais nécessaire de se former sur du matériel de cette ampleur. Madame la proviseure, je vous remercie ainsi que vos équipes pour l'excellent accueil que vous nous avez réservé aujourd'hui. Les jeunes bacheliers professionnels du lycée Galliani, comme ceux d'ailleurs, aspirent à s'insérer rapidement dans le marché du travail, même si j'ai pu en rencontrer quelques-uns qui m'expliquent qu'ils vont peut-être continuer en BTS, en licence pro, en master, pourquoi pas en doctorat, et même un qui souhaite peut-être devenir président du conseil régional. Au moins, il aura été formé dans notre région et dans un lycée, ici, et je pense qu'il en aura toute l'expérience à tirer. C'est important d'y pouvoir imaginer à cet avenir en formation qui puisse aller jusqu'au doctorat, puisque le plafond de verre qui, jusqu'ici, il y a quelques années, limitait les aspirations légitimes des jeunes dans l'enseignement professionnel, se brise aujourd'hui, et nos jeunes peuvent donc désormais de mieux en mieux poursuivre leurs études vers l'enseignement supérieur afin d'accéder à des postes de cadre. C'est important. Pourquoi je dis que c'est important? C'est parce que cela suffit, je pense, en France, d'imaginer que les cadres, les élites, que le monde dit, suivent une filière qui soit déjà une filière toute tracée, qui correspond tout de même à un certain entre-soi. Notre pays, depuis toujours, a l'habitude de séparer sa jeunesse en la projetant très tôt vers des idées. Toi, tu seras dirigeant, toi, tu seras ouvrier, plombier ou autre. Je crois que c'est vraiment très archaïque. Le 21e siècle, c'est celui de la réunion. Fêter le bac pro, d'ailleurs, c'est fêter cette réunion entre tous, où on puisse tous aspirer à tous les profils possibles de notre société. Je n'imagine pas que demain, un président de la République ne puisse pas être passé par un bac professionnel. Ce serait formidable, ce signal envoyé à tous, parce que c'est la manière dont on se représente, la façon dont se projeter dans notre société, qui montre aussi ce que notre société sera demain. L'Académie de Nice, en s'appuyant sur un solide réseau de partenaires privés et publics, de l'enseignement initial et supérieur, propose dans la filière hôtellerie-tourisme un campus des métiers et de qualification. Il est donc capital de travailler les moments de transition entre le CAP et le baccalauréat professionnel, mais aussi entre le baccalauréat professionnel et l'enseignement supérieur. Depuis 30 ans, nous avons franchi des avancées majeures pour établir l'égalité entre les différentes populations qui fréquentent nos établissements. Et je veux remercier publiquement aujourd'hui tous ceux qui ont œuvré à l'époque à l'introduction de ce diplôme, notamment le recteur Bloch, qui fut l'un des initiateurs de ce bac pro. Actuellement, par nos résultats pédagogiques, par notre travail partenarial avec le monde économique, par nos résultats, notamment nos débouchés d'insertion, nos actions de valorisation sur l'ensemble du territoire académique, nous contribuons tous ensemble à la valorisation des filières professionnelles et leur pleine reconnaissance sociale et économique. Je me réjouis de votre présence ici, nombreuses, acteurs du monde de l'éducation et de la formation professionnelle, du monde économique, des représentants des collectivités territoriales qui nous ont accompagnés sur la visite, des partenaires autres, et pardonnez-moi de ne pas tous vous citer, car nous avons aujourd'hui l'occasion de pouvoir échanger, débattre, croiser nos approches, porter un regard critique aussi sur la filière pour pouvoir la faire encore et encore progresser. Afin d'enrichir nos discussions, je traçerai quelques pistes de réflexion sur l'évolution du bac pro et plus généralement l'évolution de l'enseignement professionnel. La première, c'est la question du rôle social que l'enseignement professionnel doit jouer à l'avenir. Cette voie de formation doit-elle être une voie d'insertion et de promotion pour tous ? Les problématiques concernent aussi l'attractivité de la formation professionnelle pour tous les milieux sociaux, l'orientation dans les différentes spécialités, la persévérance scolaire et les poursuites d'études. La deuxième, c'est le rôle économique de l'enseignement professionnel à venir. Ce qui nous amène à penser et à repenser le rôle des entreprises dans la construction des diplômes et de leur reconnaissance. Quand j'étais président d'université avant, je m'adressais souvent au monde de l'entreprise en disant de penser toujours aussi à la taxe d'apprentissage qui est tout à fait essentielle à tous les niveaux, car c'est le premier niveau de dialogue qui fait effectivement qu'un territoire fonctionne. Je m'excuse devant les représentants des chambres consulaires, mais je pense que la taxe d'apprentissage a d'abord sa place dans les formations plutôt que rester bloquée dans certaines chambres consulaires. Je pense qu'elle doit être dépensée dans son ensemble. Et pardonnez-moi d'être impolitiquement correct par rapport à ça, mais je pense que c'est important de le dire. La taxe d'apprentissage, c'est vraiment fait pour la formation. Enfin, se pose toujours et encore la question de la régulation des flux par spécialité sur le territoire dans l'optique d'une meilleure insertion professionnelle. Autant de questions qui se posent pour nous aujourd'hui, qu'on doit pouvoir aborder tous ensemble, pouvoir construire les meilleures aspirations pour tous. Je souhaite donc que nos débats et vos réflexions, vos interventions, nous apportent des pistes de travail concrètes et qu'ensemble, nos actions conjuguées puissent contribuer au parcours de réussite sociale professionnelle de tous nos jeunes. Personne ne doit rester sur le bord du chemin. Je vous remercie. Je ne sais pas à qui je passe la parole. Monsieur Costa, vous avez un micro face à vous.
Merci, monsieur le recteur. Monsieur le recteur, vous prenez place. Je cherche madame Georges. Est-ce que madame Georges est dans la salle ? Eh bien, madame Georges est là. Monsieur le recteur, madame Georges vous attend.
Madame Georges, redescends.
Et nous vous attendons, nous ne vous attendons pas, mais nous espérons vous revoir. Merci, monsieur le recteur. Juste une information avant de commencer le débat. À partir de 3h30, nous remettrons les prix du concours académique vidéo qui s'appelait, vous en souvenez tous, je présente mon bac pro en 120 secondes. Donc nous aurons le plaisir de remettre les prix. J'espère que les lauréats sont venus avec les établissements. En tout cas, si les lauréats ne sont pas là, j'espère que les établissements pourront récupérer les prix pour les remettre aux jeunes qui ont fait, pour certains, vous verrez, des jolies choses. Je vais tout de suite présenter nos invités et je vais commencer par le recteur Bloch, si vous permettez. Monsieur le recteur, vous avez eu tellement de titres que je ne sais pas lequel utiliser. En tout cas, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que vous êtes président du groupe interministériel d'expertise des campus des métiers et des qualifications. Ça, c'est une réalité. Et vous êtes aussi ambassadeur du Bac Pro avec Madame Chélineau, qui nous fait aussi le plaisir d'être parmi nous cet après-midi. Donc nous avons 2 ambassadeurs sur 5 cet après-midi, ce qui est un beau pourcentage. Je ne sais pas, monsieur Leiter, si on vous présente, mais enfin, vous avez été président d'université, vous avez été recteur de nombreuses académies, vous avez été directeur des enseignements supérieurs, et puis vous avez été président de la mission nationale École-Entreprise. Et c'est sans doute à ce titre que vous avez le plus réfléchi, au départ en tout cas, sur l'introduction du bac pro. J'ai oublié de dire que le recteur Bloch, on peut le dire, est un des pères fondateurs du baccalauréat professionnel. Et je crois que tous ici, nous pouvons l'en remercier, parce que sinon, on ne serait peut-être pas là. Vous avez fait de nombreuses publications. Juste peut-être une que j'ai trouvée intéressante, qui s'appelle « Pour une stratégie convergente du système éducatif et des entreprises », que vous avez écrit en 1985, et donc à la veille, ou au moment où se menaient les travaux sur la création du bac pro. À côté de vous, Madame Chélineau, je l'ai déjà un peu présentée. Alors, Madame Chélineau, on s'est déjà vu plusieurs fois, et je suis très content que vous soyez là cet après-midi. Vous avez une carrière assez trépidante un peu partout dans le monde. Vous avez fondé et vous avez dirigé une agence de tourisme d'affaires. Et puis ensuite, vous avez fondé ce qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appelle la Journée nationale des jeunes, et que vous animez, je crois, avec beaucoup de passion. J'ajoute aussi que Madame Chélineau est antiboise, si je ne me trompe. Niçoise, alors bon, voilà. Alors Madame Chélineau est niçoise de cœur, en tout cas. Et je vous remercie d'être présente. À ma droite, Daniel Spessy. Alors, Daniel Spessy, lui aussi, c'est pas le recteur Bloch, mais il a aussi un parcours extrêmement riche. Il est d'abord chef d'entreprise, de plusieurs d'ailleurs, de plusieurs entreprises. Il a été enseignant, ce qui explique aussi peut-être son engagement. Il a été enseignant en lycée technique, hein, à l'époque on appelait ça les... Hein, et il a été enseignant en Guyane, donc il a pas mal voyagé, donc vous aurez des choses à vous raconter peut-être. Et puis, il a de nombreuses activités extra-professionnelles, et notamment qui sont liées au monde de l'éducation. Il est notamment conseiller de l'enseignement technologique, et tu me diras si je me trompe, hein, mais il y en a beaucoup. Il est membre du conseil d'administration de l'AFDET. Hein, l'AFDET, et on en parlera dans un instant, le plaisir d'avoir un représentant national de l'AFDET. Il est président de l'APIM, hein, c'est une association que ceux qui s'intéressent à l'industrie connaissent, hein, c'est l'association pour des partenaires pour la promotion de l'emploi industriel dans le 06, et peut-être plus largement. Et le VAR également, d'ailleurs, il a raconté à Madame Georges ce matin, je crois. Et puis, une bonne nouvelle, je ne sais pas si on peut l'annoncer, bah, on va le faire. À partir de demain, Daniel Spessy est président de l'UMM, l'Union des industries métallurgiques et minières, qui s'occupe des métiers de la métallurgie, qui est beaucoup plus large d'ailleurs dans son activité que les seuls métiers de la métallurgie. Voilà, donc quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui a beaucoup d'idées à nous proposer. Madame Amat, qui nous rejoint ce matin, et on le remercie parce qu'en ce moment, ce n'est pas forcément évident de voyager, mais enfin, elle est là. Alors, Madame Amat, ce qu'il faut noter, c'est l'originalité de son parcours, parce qu'elle a traversé plusieurs champs, la formation initiale, l'apprentissage, la formation continue, l'orientation, la VAE, et vous étiez, je crois, en 86 au CEREC, à ce moment-là. Et donc, vous avez aussi, du point de vue du CEREC, connu la naissance du bac pro. Vous pourrez nous en dire un mot. Et vous m'avez dit que le bac pro, il vous avait suivi tout au long de votre vie. Donc, aujourd'hui, vous l'avez rattrapé. Voilà. Alors, j'ai un mauvais élève. Bon, c'est Monsieur le Chevalier. Monsieur le Chevalier, il faut toujours un mauvais élève. Mais Monsieur le Chevalier, Monsieur le Chevalier est très occupé parce qu'il est responsable du développement des ressources humaines dans le groupe Veolia. Monsieur Chevalier a un parcours extrêmement intéressant parce qu'il a commencé par un CAP et il a fait tout un parcours depuis le CAP jusqu'au BTS en passant et en arrivant sur la licence et un Master 2. Donc, ressources humaines, ça nous intéresse beaucoup d'avoir le point de vue de quelqu'un qui s'occupe des ressources humaines en matière de recrutement par rapport aux formations que nous prodiguons à nos jeunes élèves. J'en viens, si j'ai oublié personne, à Monsieur Bijaoui. Monsieur Bijaoui qui est là-bas. Monsieur Bijaoui, c'est un chef d'établissement connu dans l'académie, connu et reconnu, qui a été professeur. Mais oui, il a même été professeur de mathématiques et qui a été proviseur de lycée général, lycée technologique, qui a été aussi conseiller de nombreux recteurs. Notamment le recteur Ardouin, et puis aussi du recteur Nick, et puis de Madame la rectrice Lovisi, et qui est depuis plusieurs années proviseur du lycée professionnel des Coteaux à Cannes, et tout le monde le connaît bien. Nous devions accueillir notre DAFPIC, hein, Patrick Després. Malheureusement, notre DAFPIC a eu un petit problème de santé. Et donc, j'ai demandé à Patrick Jam, qui est un IEN STI, sur lequel je n'ai pas demandé de biographie, mais je peux dire que c'est un voyageur aussi, puisqu'il a été à Mayotte, si je ne me trompe pas. Et puis, il est ici dans l'académie aussi, en dehors de sa spécialité STI, chargé de l'apprentissage. Voilà. Alors, Madame Amat a rattrapé le Mac Pro, et Patrick Jam a rattrapé son lycée d'origine. Voilà. Donc, merci à tous d'être là. Et j'utilise des outils de technologie moderne. Voilà. Donc notre objectif aujourd'hui, eh bien, je rappelle ce que disait Madame la proviseure tout à l'heure, de réfléchir ensemble sur à la fois l'origine du bac pro et ce qui en faisait son originalité, et puis surtout ce que le bac pro sera ou pourrait être, en tout cas, on peut essayer de le concevoir. Alors j'ai dit à l'horizon 2030, alors certains m'ont dit dans 2030 je serai déjà à la retraite, de toute façon je ne sais pas ce qui se passera, et c'est vrai que c'est difficile, sauf que je me suis dit aussi que 2020 c'était demain, et qu'aujourd'hui la stratégie 2020 elle a déjà été faite d'ailleurs au niveau européen, et donc on a essayé de se projeter un peu plus loin, mais peu importe le temps, ce qui me semble important c'est qu'on voit quelles sont les pistes d'évolution qu'on peut envisager. Donc mesdames et messieurs, je vous propose que nous fonctionnions de la façon suivante. Je vais lancer le débat par une question que je poserai à l'un d'entre vous, mais cette question, elle n'est pas le privilège et l'apanage d'une seule personne. Je souhaite que ensuite chacun puisse s'exprimer sur à partir de cette question. Donc la première question, je vais la poser à Monsieur le recteur Bloch, et peut-être aussi à Madame Amat, puisque elle a vécu la naissance du bac pro. Monsieur le recteur Bloch, quelles leçons tirer du processus de création du baccalauréat professionnel et quelle analyse peut-on faire des évolutions de ce bac pro depuis sa création?
Je pense qu'on va commencer par la première question et que voilà. Chacun autour de la table répondra à la seconde. Oui, bon, je vais essayer de ne pas rentrer dans l'histoire elle-même, mais voir ce qui dans l'histoire peut s'appliquer aujourd'hui, hein, c'est plus d'intérêt. Le premier élément, donc, il faut quand même se rendre compte que lorsque le baccalauréat professionnel a été créé, bon, qu'il est monté en puissance assez lentement. À la première promotion, 87, 800 élèves, pardon, et aujourd'hui, on est à près de 200 000. Donc, ça ne se fait pas en un jour. Et donc, ici comme ailleurs, l'action éducative doit se réfléchir sur le long terme. Hein, on n'est pas au jour le jour. Alors, deuxième point, monsieur le recteur l'a évoqué tout à l'heure, la création du bac pro résulte d'une réflexion qui est une réflexion qui dépassait de loin l'enseignement professionnel. Autrement dit, c'est une réflexion sur la mise en cohérence, notamment, de l'enseignement en général. Donc, on a travaillé autant sur l'enseignement professionnel que sur l'enseignement supérieur, par exemple, et le développement économique et les problèmes qu'on avait. Et dans un contexte, disons, qui rappelle aussi celui d'aujourd'hui, au ce sens que, en 84, donc, un nouveau gouvernement qui se forme, avec Laurent Fabius, hein, qui existe toujours, hein, comme Premier ministre, et avec Jean-Pierre Chevènement, hein, comme ministre de l'Éducation nationale. Alors, pourquoi le dire? C'est parce que tous les deux avaient quand même avaient un passé, et le passé, ils avaient été tous les deux ministres de l'Industrie. Et comme ministre de l'Industrie, ils avaient pu constater qu'un défaut de compétitivité de notre économie était lié à une compétence insuffisante des professionnels qui agissaient à tous les niveaux dans le monde économique. Donc tous les deux étaient convaincus, hein, qu'il fallait faire un effort pour renouveler, on a presque refondé, hein, l'enseignement professionnel, parce que dans le cadre de la mondialisation, on était déjà dans ce cadre-là, eh bien, on n'était pas au niveau nécessaire. Voilà. Donc on est parti de ce cadre-là, donc politique. Alors deuxième point, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, donc, on a eu depuis une production importante de lycées professionnels, de bacheliers professionnels. On a à peu près 2 500 000 bacheliers professionnels en activité. Et c'est une double réussite. Bon, la première, même s'il y a des difficultés, on y verra tout à l'heure. La première réussite, c'est la suivante, c'est imaginons un instant ce que serait l'économie française sans ces 2 500 000 bacheliers professionnels. Hein. On a encore des difficultés, mais où en serait-on sans eux, hein. Puis le deuxième point, donc on était sur cette réflexion, on est sur le même bateau, le monde économique et puis le monde éducatif. On ne peut pas avoir un monde une éducation, un système qui fonctionne bien dans une économie qui fonctionne mal et réciproquement. Voilà. On était donc sur cette réflexion commune. Mais il y avait aussi un aspect social. Quand on examine aussi ce qu'il en est de ces 200 000 bacheliers professionnels, il faut voir le fait que la plupart de ces élèves sont ici de milieux familiaux qui correspondent à des catégories socio-professionnelles qui ne sont pas parmi les plus favorisées. Autrement dit, persuadé qu'en termes de dynamique, de carburant pour l'ascenseur social, hein, eh bien, il n'y a rien eu d'autre aussi fructueux au cours des 30 dernières années que le bac professionnel, puisqu'on a permis de conduire au bac professionnel à 200 000 jeunes qui, auparavant, majoritairement donc issus de milieux défavorisés, et qui, auparavant, s'arrêtaient bien plus bas. Donc, ça a été un élément considérable en ce qui concerne l'ascenseur social. Bon. Ensuite, deuxième point, c'est que le bac professionnel, on ne le crée pas comme ça, d'un claquement de doigts, en disant ça. Bon. Autrement dit, il y a tout un contexte pour être opérationnel. Et je veux dire qu'il faut bien penser que pour que ce type d'innovation réussisse, il faut qu'elle soit accompagnée de beaucoup d'autres choses. Sinon, par elle-même, elle aurait peut-être réussi, mais tout autant végété. Alors, quels étaient ces éléments de contexte, hein, si on ne contextualise pas une réforme, la réforme risque d'aboutir à rien. Bon, premier élément historique, c'était 1979. 1979, il y avait un ministre de l'Éducation nationale qui venait de l'industrie, il s'appelait M. Belac, et puis il y avait un secrétaire général de la FEN qui s'appelait M. Henry, et qui ont signé un accord introduisant ce qu'on appelait les séquences éducatives en entreprise, en 1979. Et jusqu'en 1979, les élèves de l'enseignement professionnel n'allaient pas passer un jour en entreprise. Hein. Donc il a fallu attendre 1979. Avant, disons, ce qu'on appelait même centre d'apprentissage, c'était dans les locaux qui étaient destinés à la formation, mais pas dans les entreprises. Bon, hein, pour l'éducation nationale, en tout cas. Donc, il y a eu cette introduction, bien sûr, importante de l'alternance. Bon, le deuxième point, ça a été... Il y a un problème dehors, je ne sais pas ce que
c'est. Je crois que c'est un peu d'eau voilà, qui nous tombe du ciel.
Pour protéger leur stand. Voilà. Deuxième point, en dehors de la pluie. Deuxième point, donc, c'est ce premier point, 79. Deuxième point qui est aussi important pour comprendre ce qui s'est passé là-dedans, c'est 82, c'est loi de décentralisation. S'il n'y avait pas eu non plus les lois de décentralisation, je ne suis pas sûr que l'État aurait fait aussi bien en matière d'équipement et de construction de lycées, notamment lycées professionnels, que n'ont fait les collectivités par la suite. Donc, c'est aussi quelques éléments du contexte. Bon, j'ai parlé de la montée en puissance de Fabius et de Chevènement avec le nouveau gouvernement. Sans eux, vraisemblablement, on n'en serait pas là. Et ensuite, les choses ont continué. Alors après, je reviendrai sur la création pour en terminer du bac pro lui-même. Mais il a fallu ensuite aller au-delà. Il a fallu aller au-delà et il y a fallu, par exemple, il y a deux mesures importantes pour expliquer cette montée en puissance. C'est 86 avec Monory, c'était la suppression du palier d'orientation obligatoire en fin de cinquième. Donc, on avait 30% des élèves qui sortaient avec peu de chances même d'arriver à un CAP. Hein. C'était donc ce qu'on appelait les classes préparatoires de niveau, des CAP 3 ans, des classes préparatoires à l'apprentissage et j'en passe. Enfin, une sorte de classe d'extrusion, hein, et pas d'inclusion. Et donc, il a fallu ceci pour qu'on puisse avoir en amont le flux nécessaire pour augmenter le bac professionnel, mais aussi les bacs généraux qui en ont profité. Bon, et puis, pour en terminer, la loi Seguin, 87, hein, la loi Seguin qui a permis donc de préparer le bac pro en apprentissage. Jusqu'à la loi Seguin, 87, eh bien, l'apprentissage était réservé au CAP. Donc, c'est tout un élément d'une stratégie globale, hein, donc, qui a conduit à une vraie refondation de l'enseignement professionnel. Mais ce n'était pas seulement le bac pro, c'était une série de circonstances qui l'ont permis, et avec des mesures d'accompagnement qui étaient là, sans compter la loi de 86, qui s'appelait la loi de programmation, lancement technologique et professionnel. Alors, les lois de programmation, ça n'a pas de grande valeur, puisque le budget est annuel, mais qui permettait quand même de mettre en avant les moyens nécessaires pour le développer. Sans compter aussi, j'oublie, c'est le dernier, une décision qui a été prise chez Fabius, au Premier ministre, c'est la modification aussi qui a accompagné du statut des enseignants de lycée professionnel, puisque à partir du moment où dans les lycées professionnels, on préparait au bac professionnel, il n'y avait pas de raison qu'en matière d'indices, les indices pour le paiement donc, des salaires des enseignants soient différents dans les lycées professionnels et dans les lycées généraux et technologiques, d'où les PLP2. Donc c'est tout cet ensemble qui a permis non seulement la création, mais l'avancée du bac professionnel. Ce n'est pas simplement la création du bac professionnel.
C'est sans doute aussi ce qui a contribué à son succès, puisque ce n'était pas une mesure unique. Madame Amat, vous avez vécu cette création d'un autre point de vue. Est-ce que vous pouvez nous en parler par rapport à ce que vient de nous dire le recteur Bloch?
Bon.
Quel était votre regard à l'époque? Vous étiez au CEREC.
Le recteur Bloch a remué plein de souvenirs en moi, puisque j'étais à l'époque dans les CPC, dans les commissions professionnelles consultatives, au titre du CEREC. Donc on faisait beaucoup d'études sur les emplois, les niveaux de formation, l'insertion des jeunes, etc. Mais donc on a vu arriver le bac pro de manière... c'était tout à fait intéressant, mais moi, ce que je voudrais développer après, c'est ce qui s'est passé quand j'étais peu de temps après dans une branche professionnelle et vous dire un peu le ressenti d'une branche professionnelle par rapport au bac pro. J'étais dans les travaux publics, qui étaient d'ailleurs dans la même mouvance un peu que le bâtiment, et le bâtiment était très attaché au CAP, et les travaux publics très attachés aux écoles d'ingénieurs. Et ce nouveau diplôme, qui arrivait comme ça, cassait un petit peu cette manière de voir les choses, et surtout cette gestion de la main-d'œuvre, qui était souvent basé sur de la promotion professionnelle. C'est-à-dire, quand on était ouvrier, on pouvait passer chef de chantier et ensuite chef de travaux, etc. Et le bac pro n'a pas été forcément très bien accueilli à cette époque, et je pense que c'était intéressant de le souligner. Je pense que ça a beaucoup changé depuis, mais que du coup, ça n'a pas été forcément très bien accueilli. C'était intéressant pour moi de voir la manière dont ça s'est passé quelques années après, 4-5 ans après. Donc il y a eu des réticences à ce moment-là au bac pro. Maintenant, ça c'est... Parce que vous comprenez bien que des jeunes qui arrivaient avec un bac pro, ils avaient éventuellement des prétentions à être à certains niveaux et du coup cassaient les habitudes de promotion qu'il y avait dans cette profession. Voilà, c'était un témoignage qui était un petit peu autre que peut-être ce que vous attendiez, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé de vous le rapporter.
C'est intéressant de constater que ce n'est pas une mesure qui a forcément fait l'unanimité.
Absolument, au démarrage.
D'emblée.
Oui, oui.
Et je me souviens moi-même avoir vécu dans des milieux automobiles notamment, des patrons de garage qui disaient, nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'il faut qu'on les paye plus. Et, et on peut très bien, avec un niveau 5, ça suffit, un CAP, ça suffit. Donc,
voilà.
Effectivement, on peut constater que ce n'était pas forcément un accueil de tous de la même qualité.
Par contre, si je peux me permettre, il me semble bien que l'UMM, puisqu'on en parlait, mais la métallurgie était favorable, elle, plutôt, à la mise en place d'un bac pro et d'un niveau 4. Bon, si...
Oui, monsieur le recteur.
Bon, le CEREC était contre. Le CEREC était contre, pour la raison suivante, c'est qu'il m'affichait la chose suivante. Il y avait très peu d'embauches au niveau du bac. Donc ça, il suffisait de regarder les entrées dans le milieu professionnel et l'entrée au niveau du bac était très faible. Il y a l'entrée CAP et puis il y avait l'entrée au niveau BTS, ingénieur. Et donc, le CEREC avait... Lorsqu'on dit on va créer le bac professionnel, le CEREC disait, mais non, ça ne sert à rien, il n'y a pas d'entrée au niveau bac. Et moi, je répondais, il n'y a pas d'entrée au niveau bac parce qu'il n'y a pas de bac pro. Mais c'était une grande discussion. Bon. Alors, deuxièmement, en ce qui concerne, un petit rectifié par rapport à l'histoire, il y a des secteurs professionnels qui ont eu du mal. Je pense aussi à la chimie. hein, par exemple, qui est du mal, et pas seulement les travaux publics. Mais il y a eu, par contre, des
secteurs pas mis ton tablier, Georges.
Qui ont beaucoup aidé. Et je veux dire, la CGPME, et notamment, je donnais son nom, le responsable de la formation de la CGPME, qui était un garagiste, qui s'appelait M. Gilson, a été un de ceux qui était le plus moteur dans la création du bac professionnel, donc, et donc parmi les CGPME et du secteur garage. Ils ont beaucoup aidé. Alors, lui-même était partagé, on avait de tout. Les chambres de commerce étaient pour. Voilà, et mais c'était très partagé. Alors, au niveau syndical, c'était plus compliqué encore, hein, puisqu'on avait l'accord de, disons, l'UNSA, aujourd'hui la FEN, qui a été arraché par la, le fait qu'on ait attribué les salaires, les PLP, donc il y a une négociation PLP contre accord sur le bac pro, et on a eu un désaccord permanent avec le SNES, qui était pour les bac pro, mais sous condition que ça se fasse dans les lycées généraux technologiques. Problème de champ de syndicalisation, hein, voilà. Et donc, ça a été compliqué. À l'intérieur de l'administration, c'était compliqué. À l'intérieur de l'inspection générale, c'était compliqué. Le problème, c'est que tout cela, on en était, la plupart du groupe, hein, moi-même, on connaissait très peu tout ça. Donc, on a, comme on ne connaissait pas ces difficultés, eh ben, on n'a pas été effrayés par ces problèmes.
Bien, je vous remercie. Est-ce que des intervenants veulent parler? Oui, Patrick, Daniel. Et je vous demanderai juste de ne pas empiéter sur les questions suivantes, mais de rester sur
3 minutes.
Domaine.
Ça va?
Non, mais c'est pas une question de temps, là, Patrick, c'est une question de sujet.
On est au lycée Gallieni, qui est un lycée professionnel. Je vais revenir quelques années en arrière. C'était un collège d'enseignement technique. Et ça reprend un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que les métiers ont évolué. Dans cet établissement, il y avait des CAP qui étaient très, très, très spécialisés. Et l'UMM, en l'occurrence, puisque je suis plutôt de ce côté-là, quelque part, des sciences et techniques industrielles, a souhaité mettre en place le baccalauréat professionnel. Si on regarde dans les 30 années à venir, il me semble que l'une des problématiques qui se pose, c'est avant tout d'être en capacité, non mais je pose la question, ensuite ça viendra, c'est d'être en capacité effectivement d'avoir la réactivité nécessaire pour être en adéquation avec les besoins des entreprises et des professions. Et là c'est un véritable challenge, puisque lorsqu'on travaille en CPC, si on regarde sur les 30 années en arrière, donc je reviens, Yves, je te rassure, on voit évoluer finalement des référentiels de formation. En gros, un baccalauréat professionnel a une durée de vie d'une dizaine d'années. Entre le moment où on décide de lancer la réflexion au niveau du CEREC, le moment où on écrit le référentiel, le moment où les premiers jeunes titulaires du baccalauréat professionnel vont sortir potentiellement sur le marché du travail ou vont se positionner dans une poursuite d'études, il va falloir attendre 5 ans. On est déjà au milieu du gué. Il y a encore 5, 6, 7 années de vie possible pour un baccalauréat professionnel. C'est un véritable challenge que nous allons devoir relever, notamment par rapport à des métiers qui vont encore évoluer, peut-être plus rapidement évoluer. Je n'irai pas plus loin pour l'instant.
Je te remercie, Patrick. Je vais passer à la seconde question. Donc, c'est les évolutions du bac pro depuis sa création. Et je vais redonner la parole un instant au Reiter Blog, parce que je pense que vous avez suivi cette question attentivement. Mais encore une fois, c'est une question qui nous concerne tous. Et je vous demanderai de prendre la parole si vous le souhaitez.
Bon, question complexe. Bon, d'abord, on est passé de zéro, forcément, au jour de la création, voilà, jusqu'à près de 200 000. Donc, c'est une réussite. Bon, importante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de façon, disons, significative? Bon, essentiellement, le passage de 4 à 3 ans. Hein. C'est essentiellement le passage de 4 à 3 ans. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce passage? Je crois qu'il faut prendre le problème en face. Et comme le dit d'ailleurs la ministre elle-même, hein, c'est sûr qu'en 3 ans, on ne peut pas faire aussi bien qu'en 4. Et donc, il faut voir comment, a priori, je dirais... comment, a priori, donc, il y a des avantages au bac pour 3 ans, mais dans quelle mesure les inconvénients, on peut trouver des solutions pour les pallier. Hein, c'est ça le problème. Alors, en ce qui concerne donc, le passage de 4 à 3 ans, aucun problème pour les meilleurs élèves. Hein. Donc, c'était poussé notamment par l'UMM. Ça correspondait à des contrats d'apprentissage de 3 ans. Et donc, hors de question, bien sûr, de revenir en arrière. Mais un certain nombre de problèmes... apparaissent. Hein. Je crois qu'il faut les regarder en face et sinon, on ne les traite pas. Disons, si on les ne les traite pas. Et donc, quels sont ces problèmes relativement sérieux qui apparaissent? Alors, deux ou trois. Alors, donc, je vais vais pas donner aujourd'hui les solutions. Hein. J'ai peut-être quelques idées, mais ils sont à partager.
On en reparlera voilà. Dans un petit moment.
Alors, le premier problème est le suivant. Je crois qu'il faut le dire clairement. Hein. Je crois qu'on a besoin de parler franchement. Au cours des 10 dernières années, lorsqu'on regarde les enquêtes PISA, les résultats du français se sont détériorés, 10-15 ans, enfin depuis que ça existe, donc depuis 2002, se sont détériorés en raison de l'effondrement des compétences du dernier quartile, si on veut dire 20%, 25%, ou du dernier 20% si on met les élèves le plus en difficulté. Donc il y a ce fait majeur, hein, donc les plus mauvais élèves ont un niveau qui a baissé. Alors on peut analyser l'origine, je ne le ferai pas aujourd'hui. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'à 15 ans, on mesure à 15 ans, ils ont souvent une scolarité plus longue, ils ont moins redoublé. Et pourtant, ils sont moins bons. Supprimer le redoublement, c'est un objectif, ce n'est pas un moyen. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait devant cette situation de cette dégradation et qui est sensible au niveau de l'enseignement professionnel? Parce qu'évidemment, il y a de bons élèves qui vont dans l'enseignement professionnel, mais il y a une partie importante de ces élèves dont le background a diminué, sa PISA en témoigne. Bon. Et donc, les lycées professionnels se trouvent devant une difficulté qu'ils ont plutôt bien résolue, mais il a fallu, donc, dans les lycées professionnels, travailler fortement et continuer à travailler fortement compte tenu du fait, et ça s'est bien ressenti, mais pas bien analysé dans les lycées professionnels, d'une certaine dégradation du niveau de compétence d'un certain nombre des élèves. Bon, on se le dit entre soi, mais on ne le dit pas en public. Voilà. Mais ça, c'est un premier point. Et donc, qu'est-ce qu'on fait devant cette affaire? Moi, j'ai quelques éléments de solution pour en donner. Il y en a, heureusement, sinon on ne parlerait pas. Bon, le deuxième point, important en ce qui concerne l'enseignement, le bac pro, c'est le fait suivant, c'est que, c'est-à-dire un peu évoqué ce matin, c'est le fait que dans un certain nombre de domaines, on a évoqué ce matin le secteur commercial, secrétariat, etc., eh bien, le bac pro n'est plus tel qu'il est, véritablement un passeport pour l'emploi. Hein. Et donc, il faut donc prendre cela en compte, et je dirais, là aussi, il y a des solutions. Hein. Il y a des solutions qui sont évidemment importantes à mettre en avant. Alors, pour revenir au troisième point, c'est le passage du bac pro au BTS. Bon, pour lequel... je dirais que c'est extrêmement important d'ouvrir aux bacheliers professionnels l'accès au BTS. Et je dirais que ça a été un conflit à un moment donné avec certains organismes qui ne voulaient pas qu'on appelle bac pro le bac pro, qui voulaient qu'on appelle brevet professionnel et pas baccalauréat. Et ça a été un vrai combat de l'appeler baccalauréat. Hein, et parce que précisément, le baccalauréat permet en principe l'accès aux enseignements supérieurs. Mais je dirais que ce n'est pas sans difficulté. Et on sait, parmi les problèmes qu'on rencontre, je dirais que c'est bien qu'il y ait un taux de poursuite important, mais on sait qu'actuellement, si mes indications sont à peu près exactes, elles doivent être à peu près exactes, on n'a que 50% des élèves qui s'engagent dans le bac pro, qui s'engagent dans un BTS, qui obtiennent le BTS. Hein. Donc voilà. Donc c'est une troisième difficulté. Je crois qu'il ne faut pas les prendre comme négatives, mais il faut se dire, devant ces trois difficultés, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre le problème?
Alors, monsieur le directeur, on va y revenir. Je vais donner la parole à Georges Bijaoui, qui veut s'exprimer sur les... Restons sur les, si vous voulez bien, sur les évolutions. Donc, vous en avez indiqué un certain nombre. Et c'est vrai que la poursuite d'études est une des évolutions qui est actuellement en train de se mettre en place et de se développer. Mais on est déjà dans l'avenir et on va rester un peu sur les évolutions présentes.
Merci. Tout d'abord, permettez-moi de dire... à la fois le plaisir de participer à cette table ronde, mais surtout, pardonnez-moi, monsieur le recteur, mais le recteur Bloch qui est près de moi et qui est plus qu'une référence. Enfin, j'ai échangé un petit peu avec lui tout à l'heure et il me fait beaucoup penser aussi, je pense, de ne pas vous décevoir en le disant, au sénateur Lafitte qui a eu la grande idée de développer Sophia Antipolis qu'on connaît tous aujourd'hui. Et en échangeant avec monsieur le recteur, il me disait qu'il était ami avec le sénateur Lafitte. C'est dire que dans la vie, on a la chance de rencontrer comme ça des grands hommes qui ont une idée en tête, qui ont un projet, qui lâchent rien et qui vont jusqu'au bout. Et ça, c'est assez extraordinaire parce qu'aujourd'hui, grâce à vous, enfin grâce à la mission qu'on vous a confiée, au travail que vous avez réalisé, on a réussi, on arrive aujourd'hui à atteindre l'objectif qui est fixé, à savoir amener toute une tranche d'âge au niveau du bac. les bacheliers pro, aujourd'hui, ça représente 30%. S'il n'y avait pas le bac pro, on serait loin de l'atteindre, cet objectif. Ça, c'est un point essentiel. De mon point de vue, on est aujourd'hui à un tournant du bac pro. Et vous l'avez bien dit, parce que on va être confronté à différents problèmes que vous avez évoqués. Mais avant d'aller plus loin, il faut reconnaître, nous sommes ici au lycée Gallieni, on dispose dans les lycées professionnels d'outils de travail extraordinaires. Vous avez parlé tout à l'heure de la décentralisation. Grâce à la décentralisation, on a pu avoir des régions autour de nous qui ont su investir de manière intelligente et constructive pour nous permettre d'avoir des outils de travail fabuleux, vraiment fabuleux. Et il y a des chefs d'entreprise autour de nous. Je peux vous dire que dans tous les secteurs dans lesquels nous formons les jeunes, les entreprises nous envient souvent le matériel dont nous disposons. Et ils viennent même souvent soit se former sur du matériel dont nous disposons, soit viennent nous demander d'utiliser notre matériel parce qu'il est très performant. Donc ça, c'est un point important. À cela s'ajoutent les ressources humaines dont nous disposons. Parce que les enseignants dont nous disposons, on l'a signalé, des professeurs d'enseignement général dans les lycées pro, mais également d'enseignants dans le monde professionnel, qui sont pour la plupart issus du monde professionnel. Donc ils apportent à notre jeunesse en lycée pro ce savoir-faire et cette conjugaison de la pédagogie. Quelle chance nous avons avec ces enseignants ? C'est qu'ils ont une capacité et une facilité et l'intelligence d'évaluer les jeunes avec, comment dire, pas seulement avec empathie, pas avec laxisme, mais ils évaluent les jeunes avec l'intelligence qui leur permet de leur donner confiance. Je veux dire quoi ? Je veux dire qu'à la sortie du collège, on hérite, nous, en lycée professionnel, d'un grand nombre d'élèves, pardonnez-moi d'être un peu choquant, monsieur le recteur, on reçoit des élèves qui sont particulièrement cabossés par le collège. Je prends un temps d'arrêt parce que je sais que je vais vous choquer en disant ça. Je ne dis pas que mes collègues n'ont pas fait du bon boulot. Je dis qu'ils sont sortis cabossés parce que certains d'entre eux sont allés au bout du bout de ce qu'ils ne pouvaient plus entendre, réussir, apprendre, supporter, évaluer, mal construit, détruit dans leur image. Là, il y a un travail à faire. Et en lycée pro, oui, je vais aller plus vite. En lycée pro, ce travail est bien fait. On a obtenu maintenant, vous l'avez signalé, l'ouverture du BTS pour un certain nombre de nos sortants de bac pro. On a tous ces points qui sont positifs. Je dis méfiance. Je dis méfiance, ne nous trompons pas. Parce que lorsque 80% de nos jeunes sortant de troisième sont orientés en seconde générale, ayons un discours qui ne soit pas un discours ambigu. Ayons un discours vrai. On ne peut pas à la fois parler de formation d'excellence en lycée professionnel et imposer en parallèle 80% d'élèves sortant du collège en direction du lycée général. Parce que là, notre discours n'est pas vrai. Le discours n'est pas vrai. Et nous avons la capacité, j'ai fini, je te le promets, de faire réussir des jeunes qui n'étaient pas forcément bien partis à la sortie du collège. Voilà toutes les évolutions sur lesquelles il faudra travailler. Merci.
Merci, merci Georges. Je voudrais... Cet homme est très populaire. Cet homme est populaire. Je voudrais donner la parole sur cette question. D'abord à Daniel Sfessi, je voudrais lui demander, et peut-être à Stéphane Le Chevalier aussi, comment eux, du côté de l'entreprise, ils ont perçu le passage des 4, de la période 4 ans à la période 3 ans.
Alors, je pense... Bonjour, mesdames, messieurs, messieurs les recteurs. Avant toute chose, rapidement, on a démarré sur un problème de sémantique. On est sur des brevets, on est passé sur des bacs. Ça permettait d'avoir une approche plus sympathique vis-à-vis de l'auditoire, en particulier des parents. Ça, c'est le plan sociétal. On avait une population qui posait problème suite au décrochage scolaire. Il fallait trouver une solution. On en a trouvé une et on s'est dit on va travailler sur une base de 4 ans sur un bac professionnel. Ne nous trompons pas, un bac professionnel a pour but d'amener des jeunes à une professionnalisation. Ce qui me gêne un peu, c'est de voir l'orientation qui se prend, et on en fait bientôt des filières qu'on a connues depuis un temps dans les bacs techniques, où on allait obligatoirement vers les BTS. Nous, professionnels, on a vécu ça sur la partie industrie avec un grand soulagement. Jusqu'à présent, nous avions l'habitude de faire quoi ? Simplement de prendre des BTS qui avaient échoué pour en faire des collaborateurs de niveau bac pro. Ça nous permettait, sur la grille salariale, de ne pas payer comme un BTS et d'avoir quelques-uns qui étaient bien supérieurs au brevet professionnel. C'était une solution qui n'était pas franchement très, très propre. Les bac pro sont arrivés, on s'est dit, c'est bien, on va avoir enfin donc un strate de formation qui va convenir. On nous les présente sur 4 ans, ça nous a permis d'imaginer la longueur du parcours, et d'autant plus que l'entreprise devait être partie prenante, donc une visibilité quand même qui s'allongeait à notre goût, un peu trop loin. Et on s'était dit, à tort, j'insiste pour revenir un peu à ce que vous avez parlé d'être un peu choquant, j'ai été un peu choquant moi aussi, à tort, on s'était dit que ces filières-là allaient être remplies par des jeunes, et surtout des parents qui étaient convaincus que les métiers manuels, techniques et technologiques étaient des métiers d'avenir. Que nenni ! En France, les métiers d'avenir, c'est école de commerce, subdeco, doctorat, enfin je vous en passe, hein, et tout ce qui va bien. Donc les conseillers d'orientation et les professeurs principaux de collège, pour ne pas prendre trop d'éclaboussures, ont préféré orienter les jeunes qui avaient le potentiel, bien sûr, hein, vers des filières qui correspondent éventuellement à ces filières-là. Et puis les autres se sont tout doucement dégarnis pour en arriver à avoir ce que nous avions redouté à un moment donné, avoir des jeunes qui venaient dans ces filières-là, pas forcément d'envie, mais d'obligation. Alors là, vous disiez justement, il y a eu un travail extraordinaire qui était fait par les équipes donc pédagogiques pour amener ces élèves qui, au départ, n'étaient pas forcément les mieux lotis à avoir des métiers. Malheureusement, ils sont minoritaires. Ce qui nous plairait aujourd'hui, c'est d'arriver sur quelque chose qui serait, à l'instar des 3 années que nous appelions de nos voeux, 3 années de formation réelle, dans lesquelles l'éducation nationale et le secteur de l'entreprise marchent la main dans la main pour arriver à ce que nous attendons tous, des jeunes qui soient en insertion directe avec un métier acquis. Maintenant que certains d'entre eux, une minorité, continuent, tant mieux, que la VAE joue, que éventuellement la promotion interne, la formation continue des entreprises joue, tant mieux. Mais rappelons-nous que nos métiers aujourd'hui, nos métiers technologiques, sont des métiers où on demande un niveau de culture générale, le directeur Bloch l'insistait dessus, ainsi que de connaissances techniques qui sont en croissance exponentielle vu les technologies et les moyens de communication. Aujourd'hui, ne pas parler anglais dans une entreprise commence à poser un problème. On ne sait même pas parler français. Alors vous imaginez le problème à tous les niveaux de la hiérarchie. Donc tous ces points-là font que, oui, pour 3 ans, mais attention au choix d'entrée et au niveau d'entrée. Il serait malvenu aujourd'hui d'imaginer des écoles d'ingénieurs qui recrutent avec des niveaux inférieurs au niveau exigé. Ben, pourquoi ne pas imaginer que dans ces bacs pro, on ne valorise pas simplement ce diplôme par son nom et par sa sémantique, le baccalauréat, mais par le niveau dans lequel on entre et le niveau qu'on garantit à la sortie.